Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique. Bienvenue dans cette édition du mardi 16 avril 2024. Voici d'abord les principaux titres. Des crimes contre l'humanité pourraient avoir été commis au Soudan selon le chef de l'ONU. Au Togo, la CEDEAO envoie une délégation dans un contexte de vives tensions politiques. Un leader politique se voit refuser la sortie du territoire après le boycott du dialogue intermalien.
Le commissaire de l'aéroport qui m'a notifié, après que j'ai fait la formalité, qu'il a reçu des instructions venant des plus hautes autorités du pays, que je n'ai plus le droit de prendre cet avion pour Paris.
En RDC, nouveau rebondissement dans l'affaire du prétendu suicide de l'opposant chérubin Okende. La famille saisit à nouveau la cour d'appel. Au Bénin, la question du droit à l'avortement, de nouveau, au cœur des discussions.
Cette rencontre nationale sur la redevabilité est organisée dans le but de renforcer l'implication des acteurs de défense des droits en santé sexuelle et reproductive, afin de mettre en place tous ensemble.
La Chambre américaine des représentants votera cette semaine sur des projets séparés d'aide à l'Ukraine et Israël. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Expo pour l'instant, le journal. Une délégation diplomatique de la CEDEAO se rend au Togo à partir de lundi alors que le pays connaît de fortes tensions politiques après l'adoption d'une nouvelle constitution fin mars par les députés. Cette mission vise à interagir avec les principales parties prenantes sur les derniers développements dans le pays avant les élections législatives régionales du 29 avril 2024, a indiqué la CEDEAO dans un communiqué lundi. Le projet de nouvelle constitution qui ferait passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire agite le pays depuis son adoption en première lecture par les députés fin mars. L'opposition togolaise y voit un moyen pour le président Faure Gnassingbé de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Au Soudan, les attaques indiscriminées contre les civils pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Déclaration du secrétaire général de l'ONU un an après le début de la guerre entre deux généraux rivaux, Yacouba Ouédraogo.
D'après Antonio Guterres, c'est plus qu'une guerre entre deux parties rivales, c'est une guerre contre le peuple soudanais avec des milliers de morts et 18 millions de personnes souffrant de malnutrition grave. Le secrétaire général de l'ONU ajoute que c'est une guerre contre les droits humains et le droit humanitaire international, précisant que les attaques indiscriminées qui tuent, blessent et terrorisent les civils pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Il a aussi dénoncé les attaques contre les convois humanitaires et les violences sexuelles contre les femmes et les filles. Antonio Guterres a répété son inquiétude d'une possible attaque d'El Fasher, capitale de l'État du Darfour Nord et hub humanitaire pour cette région. Depuis le début de la guerre le 15 avril 2023, entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, violences sexuelles, ethniques et terres brûlées, en repris au Darfour Ouest.
En RDC, l'affaire du prétendu suicide de l'opposant chérubin Okende connaît un nouveau rebondissement. Malgré la thèse avancée par le parquet, la famille du défunt la conteste fermement et a décidé de saisir à nouveau la cour d'appel. Cette démarche fait suite à la diffusion répandue sur les réseaux sociaux de propos attribués à un ancien ministre, remettant en question la version officielle du suicide. Eddy Issango.
L'avocat de la famille confirme les dépôts hier d'une nouvelle plainte contre inconnu après l'annonce des procureurs qui ont conclu à un suicide et clôturé l'affaire. Selon Maître Laurent Onimba, il y a des éléments nouveaux qui ne vont pas dans le sens des conclusions du parquet. Dans la nouvelle plainte, l'avocat évoque des propos d'un ancien ministre largement partagés sur les réseaux sociaux. Des propos qui, selon lui, relatent non seulement les circonstances scandaleuses de la mort de l'opposant, mais mettent aussi en cause des personnes bien identifiables. Moudiron Tsimba, ancien ministre du Tourisme et député à qui les propos sont attribués, a été arrêté et a nié lors de son procès en être l'auteur, mais a évoqué un montage. Pour Maître Laurent Onimba, la famille de Okende estime que s'il y a eu suicide, comme les soutiennent les procureurs, il s'agirait d'un suicide assisté. Chérubin Okende était porte-parole de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Il avait été retrouvé mort le 13 juillet 2023, les corps ensanglantés, assis au volant de sa voiture, jours sur un boulevard de Kinshasa.
Au Burundi, une journaliste est détenue depuis dimanche par les services de renseignement à Bujumbura, selon sa famille. Sandra Muhoza, 42 ans, est journaliste pour la Nova Burundi, média en ligne pourtant réputé proche du pouvoir. Mohamedou Oumfa.
Sandra Muhoza avait répondu samedi à l'appel d'un riche homme d'affaires et membre influent du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ont affirmé des membres de sa famille. Sans nouvelles depuis samedi, son mari a finalement reçu dimanche un message provenant de son téléphone et qui disait que son épouse était détenue au siège central du Service national du renseignement. Il lui a été proposé de ramener des habits et d'autres effets dont elle a besoin, a déclaré un membre de son entourage, se disant inquiet mais aussi rassuré par ce message qui signifie qu'elle est encore en vie. Le motif de son arrestation n'a pas été communiqué à la famille. Nous sommes très inquiets par l'arrestation de notre collègue parce que jusqu'ici on ne sait pas pourquoi elle a été arrêtée, a de son côté indiqué le directeur du journal en ligne La Nova Burundi, Pascal Ndaziyenga. Ce n'est pas la première fois que des journalistes sont ciblés au Burundi. Les journalistes burundais vivent dans la crainte d'être menacés, agressés ou arrêtés selon l'ONG Reporters sans frontières qui avait classé en 2023 le pays au 114e rang sur 180 en matière de la liberté de la presse.
Le projet de loi controversé du gouvernement conservateur britannique visant à expulser des demandeurs d'asile au Rwanda revient lundi devant le Parlement. Le Premier ministre Rishi Sunak espérant désormais obtenir un vote final sur ce texte après des mois d'un débat parlementaire tendu.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pression internationale s'accroît sur Israël en faveur de l'apaisement avec la crainte d'une escalade du conflit au Proche-Orient après les attaques de l'Iran. Davantage avec Alexandrine Rolognon.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a convoqué son cabinet de guerre pour lundi, la deuxième fois en moins de 24 heures, afin de réfléchir à une réponse à l'attaque de missiles et de drones menée par l'Iran au cours du week-end. Israël fait l'objet de pressions de la part de ses alliés pour qu'il fasse preuve de retenue et évite une escalade du conflit régional. Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin s'est entretenu lundi avec ses homologues du Moyen-Orient et d'Europe, exprimant son soutien à Israël, mais insistant également sur la stabilité régionale afin d'éviter que le conflit ne s'étende. Bien que l'attaque n'ait pas fait de morts et n'ait causé que des dégâts limités, elle a renforcé les craintes d'une guerre ouverte entre les ennemis de longue date et alimenté les inquiétudes quant à la propagation de la violence enracinée dans la guerre de Gaza. « Nous sommes au bord du précipice et nous devons nous en éloigner », a déclaré Joseph Borrell, responsable des affaires étrangères de l'Union européenne. Le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le ministre britannique des affaires étrangères David Cameron ont lancé des appels similaires. Washington et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ont appelé également à la retenue.
La Chambre des représentants des États-Unis votera cette semaine sur des projets séparés d'aide à l'Ukraine et Israël après des mois de différends politiques entre l'administration de Joe Biden et ses opposants républicains, a annoncé lundi le chef de cette Chambre basse du Congrès. Une enveloppe de 60 milliards de dollars pour Kiev, réclamée par le président démocrate, est bloquée au Congrès depuis des mois, tout comme une autre enveloppe pour Israël. Le président Joe Biden et le premier ministre irakien ont déclaré lundi qu'ils continueraient à travailler au retrait de la coalition anti-djihadiste dirigée par les États-Unis dans le pays. Ils ont discuté de l'évolution naturelle de la coalition à la lumière des progrès significatifs qui ont été réalisés en 10 ans face aux djihadistes selon un communiqué commun. La Cour suprême des États-Unis doit examiner ce mardi un recours contre l'utilisation d'une loi ayant servi à porter l'une des accusations contre l'ex-président Donald Trump et des centaines de ses partisans qui ont participé à l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021. Trump est visé par 4 chefs d'accusation au niveau fédéral pour tentative illicite d'inverser les résultats de l'élection de 2020 perdue face au démocrate Joe Biden. Il s'agit de complot contre les institutions américaines, de complot en vue d'entraver une procédure officielle et d'atteinte au droit de vote des Américains. Le chancelier allemand Olaf Scholz a exprimé ce mardi son intention de discuter d'une paix juste en Ukraine avec le président chinois Xi Jinping lors de leur rencontre à Pékin. Selon les médias d'État chinois, M. Scholz a été reçu par M. Xi ce matin au terme de son voyage de 3 jours. En Chine, premier partenaire commercial de l'Allemagne en compagnie d'une importante délégation de ministres et de chefs d'entreprise. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce matin par Nanit Talani.
En Côte d'Ivoire, le manque de pluie combiné à la chaleur la semaine passée dans la plupart des principales régions cacaoyères pourrait réduire la quantité de la récolte de mi-avril à septembre et nuire à sa qualité, ont déclaré lundi les agriculteurs. Selon eux, si les pluies devenaient régulières et abondantes dès cette semaine jusqu'en juin, les conditions de croissance s'amélioreraient. Le Niger veut produire 200 000 barils de pétrole par jour d'ici 2026. Les 90 000 barils produits au quotidien actuellement et dont la commercialisation doit débuter en mai seront acheminés vers la mer via le Bénin. Le brut sera acheminé depuis Agadez dans le sud-est jusqu'au Bénin voisin par un oléoduc de près de 2000 km². Pour terminer, les pays pétroliers de l'OPEP envisagent une adhésion de la Namibie qui met en place ce qui pourrait lui permettre de devenir le 4e plus grand pays producteur de pétrole d'Afrique dans une décennie. Total et Shell ont réalisé ces dernières années des découvertes estimées à 2,6 milliards de barils en Namibie. Des sociétés telles que Chevron, Eco-Atlantic Oil and Gas et Enyaja Galp y mènent aussi des activités d'exploration et d'évaluation.
Nous passons à présent à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
La CAN de futsal boucle ses matchs de poule ce soir au Maroc.
Oui, deux rencontres à la même heure, 20h en temps universel dans la poule B, Mauritanie, Égypte et Libye, Namibie. Sur place à Rabat au Maroc, notre correspondant Amine Birouk fait le point.
Logiquement, la Libye devrait composter son ticket lors d'un dernier affrontement contre la sélection namibienne. La Libye qui s'est accrochée, qui a eu une rencontre très compliquée face à la Mauritanie. La Mauritanie qui a vendu très chèrement sa peau, qui ne s'est inclinée que sur le score de 5 buts à 4. On devrait retrouver les 4 demi-finalistes de la précédente édition à la Younes, c'est-à-dire Maroc, Angola, Égypte, Libye. Pour 3 places à prendre pour la prochaine Coupe du Monde et surtout voir qui pourrait succéder au Maroc.
Merci Amine Birou. Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. Les finalistes et l'équipe classée 3e vont représenter l'Afrique au Mondial de futsal prévu en Ouzbékistan du 14 septembre au 6 octobre prochain.
Et match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions, c'est ce soir en Europe, Yacouba.
Au pied du mur, après sa défaite au Parc des Princes à l'aller 3-2, le PSG a l'occasion au stade olympique de Montjuïc de solder définitivement ses comptes avec le Barça. Une victoire en terre catalane et une qualification en demi-finale penserait définitivement les plaies de Kylian Mbappé et ses partenaires. Le vainqueur de cette affiche va affronter en demi-finale celui du match entre l'Atlético Madrid et le Borussia Dortmund. Les Colchoneros se sont imposés à l'aller 2-1. Les Allemands, de leur côté, ont perdu leur arme offensive numéro 1, l'Ivoirien Sébastien Haller, forfait pour ce match.
Athlétisme pour terminer, Cissé Lema a remporté hier le marathon de Boston.
L'Éthiopien a attaqué tôt et s'est accroché pour remporter le marathon de Boston, s'imposant 2h06:17. Cissé Lema, qui menait de plus de 2 minutes à mi-parcours, a terminé avec 41 secondes d'avance sur son compatriote Mohamed Issa. Ce dernier a surgi en fin de course pour s'emparer de la deuxième place devant le Kenyan Evans Chebe, qui a été privé d'un troisième titre consécutif à Boston. Chez les dames, la Kenyan Hélène Obiri s'est détachée dans le dernier kilomètre pour remporter un deuxième titre consécutif en 2h22:37 devant sa compatriote Sharon Lokedi. Cette dernière a terminé à 8 secondes et Edna Kiplaga complète le podium kenyan.
C'était l'espoir de Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila-Kidza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. La première phase du dialogue intermalien qui a démarré samedi au niveau des communes a pris fin hier lundi. Plusieurs partis politiques ont décliné leur participation à ces discussions, invoquant la suspension de leurs activités la semaine dernière par la junte. C'est dans ce contexte que l'un des leaders politiques, Issa Kaou Djim, qui prévoyait de se rendre en Europe, s'est vu interdire dimanche la sortie du territoire à l'aéroport de Bamako. Issa Kaou Djim s'exprime au téléphone de Bagassikoura.
Le salut, c'est le retour. Et contribue aussi au retour de l'ordre constitutionnel, parce que la démocratie, certes, elle n'est pas parfaite, mais c'est le meilleur système. Et c'est dans ce cadre que j'ai participé activement à la déclaration des partis politiques, regroupements et associations pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel, et aussi de mettre sur place une architecture constitutionnelle. Donc, face à cette démarche, je pense que les autorités de transition estiment aujourd'hui, vu mon aura et ma capacité de mobilisation et surtout de communication, alors on interdit ce dimanche 14 janvier à l'aéroport de Bamako. Je partais pour Paris, c'était un voyage pour me reposer et aller aux États-Unis. C'est qui ont estimé à travers, en tout cas, le commissaire de l'aéroport qui m'a notifié, après que j'ai fait la formalité, qu'il a reçu des instructions venant des plus hautes autorités du pays, que je n'ai plus le droit de prendre cet avion pour Paris. Donc, j'ai demandé des raisons. Il dit que vraiment, il est désolé, il n'a aucune explication à me donner.
Vous étiez surpris?
Non, pas du tout. Pas surpris. Ce n'est pas une première fois. Après les sanctions de CDAO, ils m'ont interdit de voyager. Mais après, je suis allé à Paris, allé à la Mecque. Et ça, quand ils pensent qu'il y a des moments où ils sont dans une situation, ils pensent que toute communication peut être préjudiciable à leur plan, et bon, je pense que ce n'est que juste des projections. Mais moi, je pense que plus ils laissent les gens s'exprimer, plus ils laissent les gens parler, ce serait un bon signe pour dire que non, ils ne s'accrochent pas au pouvoir, au contraire. Mais s'ils empêchent les gens de voyager, ils dissoutent les regroupements, ils nous interdisent de faire des activités politiques. Alors, ils nous empêchent aussi de voyager, alors que c'est un droit constitutionnel. Je pense qu'ils montrent la nature de leur régime. Donc, j'ai pas été surpris, mais j'ai été quand même concerné de constater qu'on n'a pas une image de pays qui veut revenir vraiment à la normalité.
Issa Kaou Djim, chef de parti et membre fondateur du M5 RFP, joint à Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Il y a 10 ans, des centaines d'écoliers ont été enlevés dans le nord du Nigeria par Boko Haram. Nombre d'entre elles se sont échappées ou ont été libérées à la suite de négociations, mais le sort de 82 filles est suspendu à l'espoir de faire revivre un groupe de défense des droits autrefois très actif. Le groupe Bring Back Our Girls, Ramener nos filles en français, a fait les gros titres après l'enlèvement de 2014. Au cours de la décennie qui s'est écoulée depuis le raid, les enlèvements de masse sont de nouveau fréquents et les militants se sont lassés d'Abuja. Le reportage de Timothy Obiezu, le récit avec Yakuba Ouedraogo.
Ce parc public était autrefois un symbole d'espoir et de résilience, mais il garde aujourd'hui le souvenir d'une lutte pour sauver 82 écolières, toujours en captivité sur les 276 enlevées par Boko Haram le 14 avril 2014 au lycée de Chibok. L'une d'entre elles est la nièce d'Nkeki Muta.
Every day.
Chaque jour, le matin et l'après-midi, nous souffrons de l'absence de notre nièce. Nous avons entendu dire que certaines d'entre elles étaient mortes et c'est ce que nous demandons. Si le gouvernement a la gentillesse de nous dire ou de divulguer les noms de celles qui sont mortes, nous pourrons oublier tout cela.
Quelques jours après les enlèvements, des militants se sont regroupés et ont lancé le mouvement Bring Back Our Girls ou BBOG, ramener nos filles en français, exigeant leur sauvetage. À l'époque, le groupe se réunissait ici quotidiennement et sa campagne a suscité l'indignation du monde entier.
mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alain Manessé est le porte-parole de la communauté de Chibok et membre du mouvement BBOG.
Il y a une certaine lassitude dans la lutte. Lorsque l'initiative Bring Back Our Girls a commencé à prendre l'ampleur au niveau mondial, de nombreuses réponses ont été reçues, même de la part de gouvernements étrangers prêts à soutenir le Nigeria.
Jusqu'à présent, 194 filles sont revenues, soit en s'échappant, soit en étant libérées suite à des négociations avec le gouvernement. Mais la menace d'enlèvement massif demeure. Amnesty International indique que le Nigeria a enregistré 17 cas dans lesquels au moins 1700 enfants ont été enlevés à l'école après Chibok. Les attaques récentes ont été perpétrées par des bandes armées connues sous le nom de bandits. Ces gangs exigent souvent d'énormes rançons pour libérer leurs captifs. Les autorités nigérianes affirment qu'elles n'ont pas oublié les personnes en captivité. Le général Christopher Moussa est le chef d'état-major de l'armée du Nigeria.
Si nous avions utilisé les méthodes de combat conventionnelles, nous serions entrés dans toutes les communautés et aurions tout rasé pour recommencer à zéro. Mais nous ne pouvons pas faire cela parce que nous savons que des acteurs non étatiques retiennent d'autres personnes contre leur gré. Dans certains cas, nous sommes partis à l'attaque. Mais parce qu'il y avait des civils, nous avons annulé l'opération.
Les familles et les militants du mouvement BBOG ne sont pas d'accord. Elles affirment que les autorités n'ont pas fait preuve de volonté politique nécessaire pour résoudre le problème. Dimanche, ils se sont souvenus des filles à l'occasion du 10e anniversaire de leur enlèvement. Florence Ozor est leur chef de file.
Malheureusement, l'enlèvement des filles de Chibok a été le début d'innombrables enlèvements qui ont conduit à une industrie florissante de l'enlèvement dans notre pays depuis que le gouvernement a refusé de traduire les ravisseurs de nos filles de Chibok en justice.
Tant que les filles n'auront pas été libérées, de nombreuses personnes comme Mouta attendront de pouvoir tourner la page.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Bénin, le débat sur le droit à l'avortement est à nouveau d'actualité depuis son adoption par le Parlement en 2021. Une rencontre nationale sur la responsabilité en matière de droit à l'avortement sécurisé a eu lieu, organisée par la Coalition des jeunes pour l'avortement sécurisé, CODJAS Bénin. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Pendant 3 jours, la rencontre a réuni à Cotonou des acteurs de la société civile, des experts et des personnalités publiques, tous soucieux d'apporter des réponses claires aux préoccupations des jeunes sur la question de l'avortement sécurisé au Bénin. Kifayat Tokoshabi est la secrétaire exécutive du CODJAS Bénin.
Cette rencontre nationale sur la redevabilité est organisée dans le but de renforcer l'implication des acteurs de défense des droits en santé sexuelle et reproductive afin de mettre en place tous ensemble un mécanisme sur la question de la redevabilité en termes de services d'avortement sécurisés au Bénin.
Au cours de cette rencontre, les intervenants ont souligné l'importance de garantir les droits des individus tout en assurant un accès sûr et équitable aux services d'avortement. Aïchatou Salifou est participante.
On a l'un des grands défis qui est beaucoup plus l'accès aux services d'avortement sécurisés. Le Bénin fait partie des premiers pays, je vais dire, en Afrique francophone, qui a fait un très grand progrès en termes de santé sexuelle. Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Qu'est-ce qui en est de l'arsenal social de l'accessibilité aux services d'avortement sécurisé?
Connaître Akwedingje est juriste. Il plaide pour l'amélioration de l'outil d'évaluation des politiques publiques en matière d'avortement sécurisé.
Il est nécessaire pour tous les droits fondamentaux de prendre en compte l'approche basée sur les droits humains qui suppose la ventilation de données, qui suppose la prise en compte global des droits humains dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques.
Les participants ont travaillé sur l'identification des indicateurs clés et ont formulé des questions pertinentes pour évaluer la disponibilité, l'accessibilité, la qualité et d'autres aspects des services d'avortement sécurisés au Bénin. Mais pour Damien Seglounou, responsable plaidoyer à Médecins du Monde, il faut peser le pour et le contre.
Il est clair qu'il se pose un problème de mal compréhension sur la loi qui donne accès à l'avortement. Il faut clarifier que il s'agit d'une loi sur la santé sexuelle et reproductive, y compris l'offre de services à l'avortement sécurisé.
La rencontre a été fortement soutenue par la société civile pour laquelle le droit à l'avortement reste une question essentielle. Au ministère de la Justice, les craintes sont les mêmes. Nyanki Dokoto est un cadre du ministère. Elle replace dans son contexte le vote de la loi sur l'avortement au Bénin.
La raison fondamentale que régit les tests de notre pays sont notamment lorsque la personne est en danger, c'est-à-dire la mère ou le fœtus est en danger, lorsque pour des raisons donc assez sensibles au regard de la santé, il faut donc interrompre la grossesse. Nous sommes donc amenés donc à utiliser cette pratique-là. Parlez au papa, parlez aux mamans, mettez dans les sujets de conversation à la maison le sujet de la grossesse pour aller vers les grossesses désirées, les grossesses non désirées et l'interruption volontaire de grossesse.
Cette rencontre a été l'occasion pour les jeunes de réclamer la vulgarisation de la loi sur l'avortement. Ils ont souligné l'importance de renforcer l'engagement des parties prenantes dans la défense du droit à l'avortement et de mettre en place des mécanismes de redevabilité durable.
Au niveau de certaines personnes, c'est comme si tu veux encourager la dépravation.
Que nous avons deux grands défis à relever. Le premier défi, c'est la synergie d'action entre les différents acteurs impliqués dans le cadre de la lutte pour la promotion des avortements sécurisés dans le pays du Bénin.
Plusieurs recommandations sont issues de cette rencontre qui a servi de cadre à explorer les défis majeurs liés à la santé sexuelle et reproductive ainsi qu'à l'IVG sécurisé. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Les États-Unis et Israël estiment avoir infligé une défaite spectaculaire à l'Iran au cours de l'attaque aérienne contre l'État hébreu samedi. Mais une question plus importante se profile à l'horizon au lendemain de l'attaque. Quelle est la suite de ce conflit qui dure depuis 6 mois et qui menace d'embraser le Moyen-Orient? Reportage Anita Powell, le récit est de Rosine Mounezel.
La Maison Blanche a déclaré dimanche que la première attaque directe de l'Iran contre Israël était un échec lamentable, avec 99% des missiles interceptés avant qu'ils n'atteignent leur cible. Le président américain Joe Biden a écourté un voyage de fin de semaine dans son état natal du Delaware pour retourner à la Maison Blanche samedi, où il a passé des heures au téléphone avec des dirigeants du monde entier en réunion. Des responsables de la Maison-Blanche ont également déclaré aux journalistes que Washington ne soutenait pas une contre-attaque israélienne. L'administration Biden, par la voix de John Kirby, le porte-parole de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale, a insisté sur un point.
Le président a été clair. Nous ne cherchons pas la guerre avec l'Iran.
Au lendemain de l'attaque, les dirigeants israéliens ont cherché à se concentrer sur ce que cette attaque signifiait pour la coalition contre l'Iran, qui soutient les groupes militants qui ont frappé Israël le 7 octobre et qui ont fait basculer la région dans la violence. Yoav Gallant est le ministre israélien de la Défense.
Nous avons l'occasion d'établir une alliance stratégique contre cette menace sérieuse de l'Iran, qui menace de placer des explosifs nucléaires sur la tête de ces missiles, ce qui pourrait constituer une menace très sérieuse. Les États-Unis, Israël et leurs alliés se tiennent côte à côte pour se défendre contre cette menace.
Téhéran a promis de riposter à l'attaque israélienne présumée contre le consulat iranien à Damas au début du mois et l'ambassadeur d'Iran aux Nations Unies a affirmé dimanche que l'attaque du consulat signifiait la réponse de l'Iran. Il a souligné que l'Iran ne cherchait pas le conflit avec les États-Unis, mais a terminé son discours par une mise en garde. Amir Saïd Iravani est l'ambassadeur d'Iran aux Nations Unies.
Toutefois, si les États-Unis lancent des opérations militaires contre l'Iran, ses citoyens ou sa sécurité et ses intérêts, l'Iran utilisera son droit inhérent à répondre de manière proportionnée. Je vous remercie.
Même si les Israéliens s'y attendaient, la nuit a été éprouvante, comme l'ont dit beaucoup d'entre eux le lendemain. L'analyste Nimrod Goren de l'Institut du Moyen-Orient.
Personne ne savait à quoi s'attendre. Tout le monde attendait à la maison. C'était donc une expérience totalement nouvelle. Finalement, les gens ont été très soulagés parce que l'attaque a été bloquée.
La grande question qui se pose au premier ministre Benjamin Netanyahu est de savoir comment Israël va réagir. Écoutons encore Goren.
Je pense qu'Israël, dans la manière dont il évalue sa réponse à partir de maintenant, voit aussi quelques opportunités d'inverser la tendance négative de son image en Occident. Étant donné ce qui s'est passé hier et la retenue qu'il projette maintenant en réponse à cela.
Alors que les dirigeants du monde réfléchissent à la suite des événements pour les familles palestiniennes prises au milieu de ce conflit brutal qui a ravagé Gaza, la question ne pourrait être plus urgente.
Le mot d'aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Eric Manilakis a été avec vous. Firmin Kouyaweda a assuré la réalisation. Excellente journée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.